Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
L'histoire d'Alexandre le Grand est une source d'inspiration romanesque inépuisable. Guidé par un appétit de conquête insatiable, ce grand tacticien a bâti un empire sans pareil. Couronné à 20 ans seulement, son ivresse du pouvoir le conduira à sa perte quelques années plus tard. Une personnalité fascinante, profondément ambiguë, ni bonne ni méchante, et c'est probablement pour cette raison qu'il continue d'éblouir après sa mort les historiens et les romanciers. Parmi les textes qui relatent ce parcours gigantesque, on retrouve l'Alexandréide, un long poème écrit au Moyen-Âge par Gauthier de Châtillon, un clerc champenois. Rédigé en latin, il a été traduit récemment en français par le médiéviste Jean-Yves Tillette. Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il a été professeur de langue et de littérature latine à l'Université de Genève. Spécialiste de la création littéraire au Moyen-Âge, il est aujourd'hui au micro de Canal Académie pour nous raconter la passionnante histoire de ce récit légendaire. Jean-Yves Tillette, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de rentrer dans le détail de ce poème, arrêtons-nous d'abord un instant sur la période historique où il a été publié. L'Alexandréide, c'est donc un poème écrit par Gauthier de Châtillon. Nous sommes au Moyen-Âge, au XIIe siècle, et le sujet de ce poème porte sur une des figures les plus glorieuses de l'Antiquité. La matière antique inspire énormément la littérature médiévale. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela ?
Les médiévaux se conçoivent absolument comme les héritiers de la tradition antique. Il y a l'image extrêmement célèbre des nains juchés sur les épaules des géants qui est promue par un contemporain, peut-être ami d'ailleurs de Gauthier de Châtillon. Et les médiévaux ne voient pas de rupture culturelle, contrairement à ce que décideront les humanistes à partir de Pétrarque, entre leur propre civilisation et celle du Moyen-Âge. Mais ils ont cette particularité de ne pas être confiés en dévotion vis-à-vis de cette matière antique, mais au contraire de l'utiliser, de la faire servir à leurs propres fins, à la fois esthétiques, idéologiques, voire spirituelles. Et c'est une des choses, je pense, qu'on peut retenir de la lecture de ce poème qui, à première vu, peut sembler un petit peu sévère, un petit peu austère, qu'est l'Alexandréide. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est ce jeu entre à la fois la reprise, la continuité avec une tradition qui, vous l'avez dit, remonte très haut, quasiment à la mort du conquérant lui-même, et son adaptation à la fois au goût et aux besoins politiques et intellectuels du moment.
On y reviendra dans quelques instants, mais avant de parler du contexte dans lequel ce texte va naître, disons quelques mots sur l'auteur Gauthier donc de Châtillon. Qui est-il et d'où vient-il ? Est-ce qu'il est un auteur reconnu lorsqu'il se lance dans l'écriture de ce poème ?
La question de l'auteur est toujours très difficile au Moyen-Âge.
La notion n'est pas encore évidente.
On sait peu de choses de l'existence des auteurs médiévaux. Si je prends le cas d'un contemporain et d'un compatriote de Gauthier de Châtillon, à savoir Chrétien de Troyes, l'auteur quand même de 5 archives des principaux romans qui ont lancé en fait le roi Arthur en littérature, on sait pratiquement rien de son existence. On en sait un petit peu plus de Gauthier, mais pas énormément. Et cela uniquement parce qu'il était clerc et qu'il a donc poursuivi une carrière ecclésiastique. Donc à travers les quelques jalons de cette carrière ecclésiastique, on peut quand même le situer grosso modo. Certains des manuscrits de l'Alexandréide, des manuscrits un peu plus tardifs, donc l'information qu'ils transmettent peut être parfois un peu sujette à caution, font précéder la copie du poème d'une petite biographie de l'auteur. À travers ces documents, puis quelques allusions autobiographiques, mais assez rares, dans certains autres poèmes que l'Alexandréide. Donc on sait qu'il est né dans le nord de la France, sans doute à Lille ou juste à côté, un peu avant le milieu du XIIe siècle, qu'il a fait des études auprès d'un maître parisien assez renommé à l'époque, un certain Étienne de Tournay, qu'il a ensuite poursuivi sa formation en droit, cette fois à l'Université de Bologne, qui est vraiment qui n'est pas encore l'université, mais enfin qui est sur le point de le devenir. Les écoles de Bologne, qui sont une très bonne formation pour une future carrière administrative et donc lucrative, à une époque où ses administrations, notamment autour du Saint-Siège, se développent. Il doit avoir essayé sans grand succès de se faire recruter auprès du pape, mais ça n'a pas marché. Et il a ailleurs des poèmes extrêmement virulents, des poèmes satiriques contre la corruption de la cour romaine. Après avoir enseigné, sans doute assez modestement, dans diverses villes du nord de la France, dont un certain Châtillon, qui est peut-être Châtillon-sur-Marne, mais vous savez, des Châtillons, il y en a quand même pas mal dans la moitié nord de la France. Il est recruté par un personnage archi-important du royaume capétien, qui est appelé à devenir archevêque de Reims, Guillaume au Blanchemain, l'oncle du futur roi Philippe Auguste, qui va le prendre à son service. Et c'est à la demande de ce haut personnage qu'il va rédiger l'Alexandréide. Il dédie d'ailleurs cette Alexandréide à ce personnage qui joue un rôle non seulement religieux, mais politique très important. À Reims, c'est la ville du sacre. C'est un parent proche du roi dont il assure la régence, même si le terme n'existe pas à l'époque, quand celui-ci est mineur. Ils ont le sommet de la carrière de Gauthier de Châtillon, c'est qui reçoit une prébende de chanoine en échange, c'est son service auprès de Guillaume au Blanchemain. Après quoi, il disparaît de la circulation et on ne sait plus rien de lui. Donc selon certaines traditions tardives, il serait mort de la lèpre, mais on n'a aucun moyen de le vérifier. C'est un peu aussi un topos des écrivains, notamment en langue française, de cette région du nord de la France, de prendre congé du monde en annonçant que la lèpre nous en éloigne. Donc vous voyez, quelques étapes, quelques éléments d'une carrière plutôt prestigieuse, mais rien sur la personnalité de l'auteur, naturellement.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est donc rentré au service de Guillaume au Blanchemain, qui, vous l'avez dit, est un personnage très important à l'époque. C'est le premier personnage ecclésiastique du royaume. Et donc, c'est lui qui a commandé ce texte, ce récit. Est-ce qu'on peut comparer Guillaume de Blanchemain à une sorte de mécène à l'époque ?
Oui, on peut dire les choses comme ça, effectivement. Le métier d'écrivain n'est pas rétribué comme tel hein, au XIIe siècle. Donc, il faut trouver les... Il a fallu du temps hein, pour composer l'Alexandréide. Gauthier de Châtillon parle de cinq années entières. Et je conçois parce que c'est un poème à la fois long et difficile et très, très réussi. On n'a rien sans rien. Donc, bon, ce qui serait curieux de savoir, mais on ne le saura jamais, c'est comment, parmi les clercs de la région champenoise, l'archevêque a pu repérer le talent exceptionnel de cet auteur. Bon, il était déjà l'auteur d'un certain nombre de petites compositions, notamment satiriques et religieuses, qui ont peut-être attiré l'attention sur lui. Mais donc le fait est que prendre quelqu'un à son service, ça veut dire le recruter à la fois comme propagandiste, mais le rémunérer en conséquence. Et la rémunération, là, en l'occurrence, c'est un poste de chanoine donc, qui rapporte une prébende et qui est relativement lucratif. On ne sait pas d'ailleurs où Gauthier de Châtillon était prébendé. Il n'a probablement jamais exercé, il n'a jamais siégé véritablement dans le chapitre auquel il était rattaché, mais ça lui permettait de vivre, je pense, assez généreusement. Oui, c'est tout.
Et est-ce que de façon plus générale, à l'époque, alors vous l'avez dit, la notion d'auteur n'est pas très évidente, mais est-ce que les artistes, les écrivains de l'époque, pour réussir à vivre de leur art, sont obligés de se rapprocher d'une noblesse, d'une aristocratie qui va porter leur projet littéraire ? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe à l'époque ?
Alors oui, bien sûr, oui. Bon, il faut peut-être faire la différence aussi entre les écrivains en latin et les écrivains en langue vernaculaire. Les écrivains en latin sont des clercs par définition, c'est-à-dire au sens premier de clericus à l'époque, ça veut dire literatus. C'est quelqu'un qui a appris les lettres de l'alphabet, qui sait lire et écrire. Et donc ces gens-là suivent en général une carrière dans l'Église, donc une carrière plus ou moins lucrative, mais ceux qui arrivent en tout cas à publier, à écrire, sont souvent des gens qui n'ont pas de soucis à se faire pour leur vie quotidienne et qui sont d'abord chanoines, légats, évêques, etc., ou membres d'une administration comme celle du roi d'Angleterre, et qui sont, par surcroît, si vous voulez, écrivains. Alors, en langue vulgaire, les choses sont un petit peu différentes, évidemment, puisque les gens qui commencent... Enfin, bon, la littérature française est encore très jeune. Le premier témoignage conséquent, la chanson de Roland, c'est la fin du XIe siècle. Mais au XIIe siècle, on a déjà une très riche littérature en langue française. On sait peu de choses en général des auteurs, comme je vous le disais, Chrétien de Troyes n'est qu'un nom, rien de plus. Mais effectivement, comme vous le suggérez très, très justement, c'est la protection de grands, d'aristocrates, qui leur permet effectivement de remplir ou d'accomplir leur travail ou leur vocation même. Chrétien de Troyes était le protégé de la comtesse Marie de Champagne, du comte Philippe d'Alsace, et pour les autres, c'est pareil. Alors, il y a des milieux qui sont particulièrement porteurs à l'époque, c'est les milieux qui entourent la cour Plantagenet, autour du roi Henri II d'Angleterre et de sa femme Aliénor d'Aquitaine, hein, qui est une protectrice des arts et des lettres bien connue. On a un grand nombre d'écrivains importants, en latin et en français, puisqu'on parle français, anglo-normand à l'époque, dans ces régions-là, qui gravitent. Et puis la Champagne donc, est aussi, grâce au comte Henri de le Libéral, qui est un amoureux de la littérature, qui a une belle bibliothèque, on a aussi un milieu culturel dynamique. Dans d'autres secteurs, en particulier à l'époque, la cour capétienne, bon, qui se rattrapera bien par la suite, on n'est pas très intéressé par les choses de la littérature et de l'esprit. Mais effectivement, c'est à travers la protection, le patronage d'aristocrates, généralement de très, très haut parage, de très haut rang, qu'on peut faire carrière, avec tous les guillemets naturellement qu'impose ce terme, dans la littérature au XIIe siècle.
Alors vous expliquez justement, Jean-Yves Fillette, dans la préface de l'ouvrage, que cette demande de Guillaume au Blanchemain, elle n'est pas complètement désintéressée. En fait, derrière l'épopée d'Alexandre le Grand, qui est donc racontée par Gauthier de Châtillon, il y a un message éminemment politique, sinon éthique, et on peut deviner certains parallèles avec l'actualité de l'époque.
Tout à fait, oui. Oui, en effet. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles Guillaume au Blanchemain demande à Gauthier de Châtillon d'écrire d'Alexandre. D'une part, parce que c'est, bon, on va peut-être y revenir, c'est un auteur, c'est un personnage historique extrêmement populaire à l'époque et dont le souvenir parle effectivement de façon très, très éclatante à la classe aristocratique. Mais il y a un petit peu plus dans le cas de Gauthier de Châtillon et son rapport avec Guillaume au Blanchemain. Il se trouve que le jeune roi, donc celui qui vient de monter sur le trône, Philippe II Auguste, porte le même prénom que le père d'Alexandre le Grand, Philippe. Et donc, au Moyen-Âge, on attache, au Moyen-Âge, peut-être encore au XIXe siècle, une certaine importance à la transmission des prénoms comme transmission aussi d'un caractère. Et à travers ce lien familialement symbolique ou symboliquement familial, Guillaume, je pense, veut proposer à son protégé, le jeune roi, un exemple illustre en la personne d'Alexandre le Grand. Et c'est un exemple à la fois parce que c'est le meilleur chevalier du monde, hein, il a réalisé des exploits que nul autre conquérant depuis n'a réussi à réaliser. C'est plus précisément aussi un modèle en ce qu'Alexandre le Grand est un souverain qui a conquis l'Orient. Or, à l'époque, la conquête de l'Orient ou le maintien des possessions orientales de la couronne de France et des autres monarchies occidentales est crucial. Hein. La prise de Jérusalem date de moins d'un siècle, mais déjà, après l'échec piteux de la croisade de Louis VII au milieu du XIIe siècle, les États d'Orient sont tout à fait menacés par la progression des Turcs. Il s'agit de convaincre, et c'est d'ailleurs la grande affaire du long règne d'un autre Alexandre, qui est le pape Alexandre III, qui est contemporain, mais bon, peu importe. Donc, il s'agit de convaincre donc les souverains d'Occident de venir renforcer les défenses et de venir au secours des États latins d'Orient menacés. Et de fait, Alexandre le Grand, qui est passé d'Europe en Asie et qui a conquis une bonne partie de celle-ci, peut figurer un modèle tout à fait adéquat de conquête ou de reconquête sur les infidèles ou les païens, comme on dit à l'époque. Il y a d'ailleurs un passage qui se situe juste au centre de l'Alexandréide, où de façon cette fois-ci explicite, Gauthier de Châtillon dit « Si seulement aujourd'hui on avait un roi pareil, alors à ce moment-là, ben, les musulmans de Jérusalem ou d'Afrique du Nord ou d'Espagne pourraient plier bagages piteusement. »
donc référence aux croisades, mais il y a aussi une mise en avant de la figure idéale de la royauté, par exemple avec l'épisode au début avec Aristote, donc, qui fut donc le précepteur d'Alexandre le Grand, qui lui donne une leçon de bon gouvernement, on peut dire ça, et qui lui donne toute la marche à suivre pour devenir un bon roi derrière. C'est bien ça?
Oui, c'est intéressant d'ailleurs, parce que la leçon d'Aristote, qui est d'ailleurs une invention dans une large mesure une invention de Gauthier de Châtillon, parce que autant pour le récit des conquêtes il s'appuie sur une source antique qu'il suit assez fidèlement, comme la source antique en question est défective de ses premiers livres, donc c'est lui qui a en quelque sorte mis au point, inventé cette histoire des enfants. Enfin, on sait qu'Aristote, bien sûr, qui commence à la grande époque de célébrité d'Aristote dans l'école occidentale, ce sera à partir du XIIIe siècle. Mais enfin, déjà là, on est à la fin du XIIe, et il commence déjà à avoir une certaine stature. On sait par ailleurs qu'il a été le précepteur d'Alexandre le Grand. Et donc Gauthier de Châtillon met dans sa bouche ce qu'on appelle à l'époque un miroir du prince, c'est-à-dire un traité du bon gouvernement, et il donne un certain nombre de conseils à son disciple, à son élève. Donc la bravoure, la largesse, la modération dans ses conduites personnelles. Alexandre va suivre fidèlement, enfin l'Alexandre de Gauthier de Châtillon va suivre fidèlement sur certains points ses conseils, sur d'autres pas il va tous. Un peu n'en faire qu'à sa tête. Mais on peut voir effectivement à travers donc ce long enseignement d'Aristote un portrait du roi idéal qui est aussi un roi pragmatique, donc il doit savoir s'entourer, enfin ce genre de choses. Évidemment que Guillaume Blanchemain est le premier du conseil, donc c'est normal que son obligé Gauthier de Châtillon dise que les conseillers sont très importants, etc. Mais voilà.
Gauthier de Châtillon n'est pas la première personne à mettre en récit les exploits d'Alexandre le Grand. Avant lui, d'autres auteurs se sont intéressés à cette figure mythique. Mais jusqu'alors, Alexandre le Grand était dépeint soit comme un héros très très positif ou alors très négatif. Et ce qu'il y a de très intéressant dans le récit de Gauthier de Châtillon, c'est que justement, il est dépeint comme une personnalité très, très ambigu, très contradictoire.
Oui, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le lis, et je crois que le texte m'autorise à le faire. Oh, c'est un des rares textes latins du Moyen-Âge qui a suscité une littérature critique quand même extrêmement, extrêmement abondante. Le génie, à mon sens, de Gauthier de Châtillon, c'est comme vous l'avez lu, c'est de savoir trouver le milieu entre ces deux voies, de faire à la fois d'Alexandre le Grand un modèle pour les futurs croisés en particulier, très vaillant aux armes, plutôt généreux envers les vaincus, même si à certains moments il se laisse emporter par son tempérament un peu vif et commet des massacres absolument odieux, mais aussi quelqu'un qui ne comprend pas le revers des choses, l'arrière des choses, si vous voulez. La divinité qu'il invoque toujours, c'est la divinité de la fortune, le hasard, le destin. Et un petit peu, dit-on, comme Napoléon croira à sa bonne étoile. Donc il est guidé par cette divinité, qui est une divinité païenne. Et chaque fois que, à la suite de certains artifices du texte, il est mis en présence d'une possibilité de concevoir ce que sera le message chrétien, il ne comprend pas. On est aussi à une période où, selon les clercs, les intellectuels cléricaux les plus éminents, notamment autour de ce qui deviendra bientôt l'Université de Paris, les écoles de Paris, on a une vision très, très nette de la société, séparée entre ceux qui savent et ceux qui peuvent. Ceux qui savent, c'est les clercs, c'est les évêques, c'est ça. Ceux qui peuvent, c'est les guerriers. Les seconds sont subordonnés aux premiers. Ils n'ont pas besoin de savoir. Il faut qu'ils fassent ce que les clercs leur disent de faire, en particulier aller défendre Jérusalem. Ça. Alors l'Alexandre de Gauthier de Châtillon, c'est un peu cette figure du roi, c'est-à-dire un exécutant tout à fait acceptable, mais quelqu'un à qui on ne demande pas de réfléchir pour faire ce qu'il a à faire. En quoi il s'oppose aux Alexandres contemporains des romans en français, en langue vulgaire, qui sont eux destinés aux laïcs et qui font d'Alexandre un personnage à 100% positif, hein, le roi idéal. Celui de Gauthier de Châtillon, il a hérité de la mauvaise image que certaines sources antiques donnent de lui, mais en même temps, il peut faire, encore une fois, un modèle tout à fait glorieux et tout à fait utilisable pour pousser les aristocrates à l'action.
On dit souvent qu'Alexandre le Grand est une figure mythique et on a parfois du mal à distinguer ce qui relève de la légende ou de l'histoire. Et vous expliquez que pour la rédaction de ce récit, Gauthier de Châtillon, c'est principalement basé sur des récits historiques et pas légendaires.
Tout à fait, oui.
Ça, c'était vraiment pour donner une légitimité plus solide à son texte, c'est ça ? C'est pour, en tout cas, le distinguer des autres
Le distinguer certainement et probablement aussi lui donner une plus grande légitimité, oui. Nous avons l'habitude, nous, aujourd'hui, quand nous plongeons dans cette océanique littérature alexandrographique, comme on dit, de distinguer deux veines, une veine historique, très représentée hein, depuis l'Antiquité, une veine romanesque qui est également très représentée depuis l'Antiquité, qui fait la part belle à des aspects légendaires comme les circonstances étranges de la naissance d'Alexandre, qui serait le fils d'un démon incube, et ce qui développe surtout les récits fantastiques autour de la conquête des Indes. C'est de cette tradition-là, beaucoup plus vivace encore au XIIe siècle, que s'inspirent les romans de langue française. Gauthier de Châtillon, à la fois, je pense, pour prendre leur contre-pied et par souci de véridicité historique, va lui s'appuyer sur un historien latin de la carrière d'Alexandre le Grand, donc Cancurs, plus ou moins contemporain d'Auguste, on ne le situe pas très très bien historiquement, mais qui a écrit donc en latin une très longue histoire en 10 livres de la vie d'Alexandre. Donc c'est un texte qui n'est pas encore extrêmement diffusé dans la culture de l'époque. Autant au XVe siècle, alors ce sera un best-seller, hein, il sera traduit en français à la cour de Bourgogne, etc. Autant Cancurs, c'est un auteur relativement rare à l'époque. Et donc se référer à lui, ça a un sens. Et je pense que le sens, c'est je choisis la vérité historique contre le mensonge romanesque qu'ont choisi mes concurrents en langue vulgaire.
Alors la vérité historique, certes, mais ça n'empêche pas d'utiliser un style très, très épique. En tout cas,
naturellement,
Gauthier de Châtillon emploie tous les codes de l'épopée. Est-ce que vous pourriez nous les détailler, ces codes-là ?
Oui. Alors, bon, il y a d'une part le fait d'écrire à la mode antique, c'est-à-dire dans un vers qui est l'hexamètre dactylique, donc le vers qu'a créé Homère, peut-être, et puis qu'a repris Virgile et les grands auteurs d'épopées en latin. C'est un vers qui est fondé sur la distribution à l'intérieur de chaque vers des syllabes longues et des syllabes brèves. Autant dire que dans la phonétique du latin médiéval, ça n'a plus aucune espèce de réalité auditive, mais c'est une référence à une tradition extrêmement prestigieuse, hein, qui remonte aux plus grands auteurs de l'Antiquité. Et puis, par ailleurs, l'épopée inclut aussi toute une série de codes, de scènes obligatoires. Il y a notamment les récits de combats. Et à la différence de Cancurs, qui met plutôt en scène le choc de deux grandes armées, par exemple lors des grandes batailles entre les Grecs et les Perses, Gauthier de Châtillon préfère sélectionner quelques valeureux combattants et les faire se battre en duel, un peu comme on imagine les duels de chevalerie à l'époque. Parmi les autres codes de l'épopée, il y a aussi ce qu'on appelle dans un jargon un petit peu pédant l'ekphrasis, c'est-à-dire la description d'un objet d'art qui est souvent symbolique. C'est Homère qui a inventé le système avec le fameux bouclier d'Achille dans l'Iliade, repris par Virgile avec le bouclier d'Énée, et à son tour, Gauthier de Châtillon va se livrer à quelques ekphrasis. Il écrit un bouclier, mais curieusement, c'est le bouclier du méchant, c'est le bouclier d'Arius, donc le roi perse, l'ennemi d'Alexandre le Grand. Et au lieu de montrer les triomphes de la Perse, il montre plutôt, c'est une drôle d'idée de s'abriter derrière ça, c'est des confitures. Donc il y a un jeu, si vous voulez, avec les codes antiques. Les autres grandes ekphrasis qui ne sont pas de modèle antique, mais qu'on trouve dans les récits français de l'époque auquel va s'adonner Gauthier de Châtillon, c'est la description des tombeaux. Le tombeau de la femme de Darius, d'abord, qui meurt d'épuisement après avoir été capturée, et le tombeau de Darius lui-même, qui est hautement symbolique de la destinée avortée, en somme, d'un conquérant, puisqu'il télescope de façon assez étrange à la fois la carte du monde telle qu'on se le représente à l'époque, et la roue de fortune qui n'élève les souverains que pour les abaisser. Donc une iconographie implicite qui est assez, assez curieuse. Et l'ekphrasis, c'est pas de l'art pour l'art, donc c'est pour mettre en profondeur, donner de la profondeur au récit. En montrant à Alexandre le Grand le tombeau de Darius, Gauthier de Châtillon, en quelque sorte, l'avertit que la destinée des rois, si conquérante soit-elle, est vouée, au bout du compte, s'anéantir. Donc il y a ce code-là qui est repris avec beaucoup d'habileté, détourné et repris avec beaucoup d'habileté. Ce qui était, chez Virgile, symbole de gloire future devient l'avertissement de ne pas avoir trop à compter sur la seule gloire des armes. Et puis, alors ce qui est le plus spectaculaire peut-être dans la reprise des motifs antiques, c'est ce qu'on appelle, là aussi d'un terme pédant, la catabase, c'est-à-dire la descente aux enfers. Virgile a fait descendre Énée aux enfers, où il a retrouvé, après avoir traversé toute une série de lieux plus ou moins inquiétants, où il a retrouvé aux Champs-Élysées, au paradis, on dirait au Moyen-Âge, son père Anchise qui lui annonce la future gloire de Rome. Alors, bien sûr, Gauthier de Châtillon, qui est chrétien, ne peut pas faire descendre aux enfers son héros. Le seul personnage humain qui soit descendu aux enfers pour en monter, c'est le Christ. Mais alors, par un artifice là aussi assez habile, il va ici mettre en jeu des allégories, et en particulier l'allégorie d'un personnage qui a pas mal de succès dans la poésie latine du XIIe siècle, qui est Nature. Et Nature qui commence... Alexandre est arrivé au bord, à l'extrême bord du monde, et il se prépare à aller de l'autre côté, à aller voir ce qu'un homme n'a pas le droit de voir. Nature qui protège son domaine, est absolument horrifiée à cette idée, et elle va donc aux enfers trouver Satan. Pour le coup, il y a un mélange de tradition chrétienne et naturaliste ou symbolique, pour lui demander d'arrêter la marche d'Alexandre le Grand. Et effectivement, Satan, qui est entouré d'une cour de vices, il y a les sept péchés capitaux, mais aussi les vices particulièrement pernicieux dans les cours princières, l'hypocrisie, la flatterie, etc. Satan va trouver le moyen d'envoyer sa disciple Trahison, inspirer Général Félon, d'empoisonner Alexandre, et c'est comme ça qu'il finira assez, assez lamentablement. Donc vous voyez, donc d'une part, reprise fidèle de tous les codes esthétiques de l'épopée, mais en les retravaillant pour les faire servir à la signification donc ambiguë dont nous parlions tout à l'heure, celle qui consiste à faire d'Alexandre un héros, mais un héros un petit peu inaccompli malgré tout.
Cette première version a été publiée en latin. À l'époque, pourtant, il me semble, enfin, vous le disiez au début, certains textes commencent à être publiés donc en roman, c'est-à-dire oui. le dialecte issu du latin vulgarisé. Donc la langue d'Euil, par exemple, va devenir la langue du récit épique par excellence. Pourquoi Gauthier de Châtillon choisit de publier ce texte en latin? Est-ce que c'est parce que le texte était destiné à une certaine aristocratie?
Alors... Malgré tout, donc même s'il y a effectivement un essor tout à fait remarquable de la littérature, notamment sur des sujets antiques en langue française à l'époque, la langue latine reste plus noble et le genre roi, c'est l'épopée. En plus, il se trouve, le hasard veut qu'on a écrit des quantités de choses sur Alexandre depuis sa mort en 323, mais jamais d'épopée. Donc il se vante, c'est pas un modeste, hein, donc il se vante dans sa préface d'être le premier à avoir osé... s'en prendre à cette tâche surhumaine qui est d'écrire du plus grand conquérant avec le maître le plus noble. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être, mais ça c'est une hypothèse qu'on n'est pas obligé de partager, enfin qui est la mienne, l'idée que les écrivains de langue latine, les clercs, commencent à voir ce qui était leur privilège, leur apanage, à savoir les récits sur l'Antiquité, leur échapper au profit d'écrivains en langue vulgaire qui touche par définition un public plus large. Donc il y a peut-être aussi un peu un côté défense du précaré, si vous voulez, en écrivant en latin, en disant non, la matière d'Alexandre, vous pouvez en écrire en français ce que vous voulez, mais le plus beau texte qu'on écrira d'Alexandre, c'est mon épopée. Alors, ça pose évidemment la question du public, parce que ce n'est pas un latin facile, hein, bien sûr. Il est clair que les romans en octosyllabes de langue française, qui sont faits pour la récitation, enfin en octosyllabes ou en dodécasyllabes pour Alexandre, sont plus faciles d'accès à un large public. Je pense quand même, et donc les études de spécialistes ont montré, qu'en tout cas à cette période, la fin du XIIe siècle, la haute aristocratie au moins était capable d'entendre le latin, au besoin à l'aide de quelques gloses. Le plus ancien manuscrit de l'Alexandride, qui est quasiment contemporain de l'auteur, qui se trouve conservé à Genève, est orné de quelques gloses qui me semblent suggérer que le manuscrit en question était destiné à un public plutôt laïque, plutôt aristocratique.
plutôt aristocratique et donc pas forcément très facile d'accès. Mais pourtant, lorsque le texte est publié, il va rencontrer un grand succès. On dit que peu de poèmes latins au Moyen-Âge ont fait l'objet d'une ample diffusion. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce succès qui dépasse même les frontières de la France ?
Tout à fait, oui. Non, alors ça, c'est extrêmement facile. C'est parce que ça va devenir un texte scolaire. Évidemment, Gautier de Châtillon n'a pas écrit d'abord pour être lu par des grammairiens. Enfin, j'espère que ce n'est pas le cas. Il a une vraie conscience, une vraie confiance en son talent. Mais le fait est que cette épopée apparaît comme tellement réussie par les intellectuels de l'époque qu'elle va très vite, en tout cas dès le XIIIe siècle, c'est du XIIIe siècle qu'on a le plus grand nombre de manuscrits, être inscrit au programme des écoles, ou en tout cas, enfin, disons, des premiers grades universitaires. Hein. On commence l'université en étudiant ce qu'on appelle les arts libéraux, parmi lesquels il y a notamment la grammaire. Alors, ce qu'on appelle grammaire, ce n'est pas aussi restrictif que de nos jours. Hein. La grammaire, c'est l'étude de la littérature, en gros, et du latin, de son vocabulaire, de sa syntaxe, de ses figures de rhétorique, etc. Et donc, l'Alexandrie de Gautier de Châtillon, qui est si bien écrite, qui exhibe vraiment tous les caractères des beaux textes antiques, mais qui a en plus le mérite d'être chrétien, va petit à petit, au fil du XIIIe siècle, se substituer dans les programmes des maîtres de grammaire à l'Énéide de Virgile. À telle enseigne d'ailleurs qu'un maître célèbre de l'Université de Paris à la fin du XIIIe siècle, un certain Henri de Gand, écrit, pour s'en attrister un petit peu d'ailleurs dans les années 1270, on ne lit plus les classiques maintenant à l'université, on ne lit plus que l'Alexandride. La garantie naturellement pour un texte de survivre et de survivre à travers une large tradition manuscrite, c'est d'être enseigné, d'être glosé. Et donc la plupart des manuscrits qu'on a conservés sont effectivement des manuscrits glosés. Hein. Et donc ce succès scolaire, cet usage scolaire explique ce qui nous apparaît effectivement comme un succès, qui en est un du point de vue de la tradition manuscrite. J'ose espérer qu'il y a eu des lecteurs aussi pour apprécier ce texte, pour le trouver beau, ou y trouver des leçons, je ne sais pas, de morale ou de stratégie. Enfin.
Donc il est enseigné, étudié à l'école, et vous-même, vous avez fait une lecture très fine de ce texte, puisque vous proposez une traduction en français. Et vous dites, si j'ai bien lu, qu'il s'agit de la première traduction en français de ce texte.
Oui, tout à fait, oui. Alors, il y a eu quelques fragments... Enfin, il a dû être traduit en ancien français vers le XVe siècle, mais on n'a conservé qu'un tout petit fragment qui a été redécouvert d'ailleurs récemment. Pierre Le Passage, qui vous a intéressé des enseignements d'Aristote à Alexandre, a été extrait du texte et a fait lui aussi l'objet de traductions médiévales en ancien français et en moyen anglais. Mais le texte, dans son intégralité, il se trouve qu'il n'avait jamais été traduit en français. Alors, il y a d'autres traductions en langue moderne. Les Allemands l'ont traduit et bien traduit, les Anglais, tout récemment les Italiens. Mais ma traduction est la première traduction intégrale en français de ce texte.
Et vous dites que cette traduction a été un peu casse-tête à faire en raison de la syntaxe française, en tout cas moins facile à faire qu'à traduire que dans les langues anglaises, par exemple, ou germaniques.
Oui, vous savez, le problème c'est de traduire des vers en français en essayant de faire que la traduction ne soit pas complètement prosaïque. Hein, c'est pas facile à faire. Il y en a quelques-uns qui réussissent. Mais... Donc, dans la mesure où la langue de Gautier de Châtillon, en son temps, donc à la fin du XIIe siècle, était déjà très, très inactuelle, hein, très, très apprêtée, très, très travaillée, très, très guindée, j'ai essayé de rendre aussi ce côté un petit peu précieux, si vous voulez, de la langue, d'être précis dans le vocabulaire et d'employer des mots rares là où Gautier de Châtillon emploie des mots rares. Et puis surtout, alors, l'idée de... Alors, le vers épique français, c'est l'alexandrin, mais c'est vraiment très, très difficile de rendre l'hexamètre latin, qui compte entre 13 et 17 syllabes, de le couler dans le mot de l'alexandrin. Bon, il y a quelques personnes... Béni des dieux comme mon confrère Pierre Laurence qui y parviennent, moi c'est un petit peu au-dessus de mes forces. Mais enfin j'ai quand même essayé de donner à cette prose un rythme qui la scande. Hein. Donc si vous lisez à haute voix mon texte, j'espère que vous y repérez de temps en temps des octosyllabes, des alexandrins, enfin quelques vers blancs. Et j'essaye de donner à ce texte une élégance que n'ont pas toujours, hélas, les traductions de la poésie latine.
Vous nous offrez un texte littéraire très rare. Pour finir, Jean-Yves Tillette, pourquoi, selon vous, il faudrait relire aujourd'hui l'épopée d'Alexandre le Grand et en particulier ce texte-là de Gautier de Châtillon ?
On n'est jamais obligé de relire les textes. Bon, il y a plusieurs raisons, me semble-t-il. Bon, d'une part, pour les spécialistes, hein, les gens du métier, les médiévistes, pas seulement littéraires, hein, mais également historiens de la philosophie, etc., qui ont parfois du mal avec un texte d'une latinité quand même aussi soutenue. C'est un moment important de la culture médiévale et donc pour éclairer à la fois littérairement, mais aussi, bon, j'essaie de le suggérer aujourd'hui, idéologiquement, la période. Ça peut être utile de connaître ce texte, d'autant plus que, comme on vient de le dire, il a quand même rencontré un écho tout à fait considérable dans la culture des siècles suivants du Moyen-Âge. Pour l'honnête homme d'aujourd'hui, bah, pour découvrir qu'il y a une poésie latine du Moyen-Âge, bon, je ne vais pas dire qu'on l'ignore, mais c'est quand même pas le canton le plus fréquenté de l'histoire de la littérature. Alors, on sait naturellement qu'au Moyen-Âge, on a écrit en latin, qu'on a même écrit de la poésie latine, mais on pense généralement à la poésie liturgique, ou à la rigueur, grâce au Carmina Burana de Karl Orff, à ses chansons à boire, ou ses chansons d'amour en latin, qui sont dans une métrique tout à fait médiévale et plus du tout antique. Or, les médiévaux imitateurs, en même temps traîtres à leur modèle, enfin, c'est des trahisons fécondes, au fond. Donc, il me semble que d'un point de vue d'abord de simple information, ça peut être utile de voir qu'on arrive à écrire en latin d'aussi, j'ose pas dire ça, mais enfin, presque quand même, d'aussi belles épopées que l'Énéide au Moyen-Âge, et pourquoi pas y prendre un certain plaisir. C'est aussi l'occasion de se replonger dans une vision peut-être un petit peu inhabituelle aussi de la personnalité d'Alexandre le Grand, qui continue, si j'en crois en tout cas l'actualité éditoriale, à fasciner. Tout récemment encore, il y a une semaine ou 15 jours, un gros volume d'un historien anglais sur Alexandre le Grand et son père Philippe II vient de paraître. Il a les honneurs des gazettes et il y en a des piles dans les librairies. Donc c'est un personnage qui continue de fasciner. Et ajouter une petite pierre, un élément supplémentaire et un peu inattendu aux raisons de cette fascination, ça me semble aussi pas une mauvaise idée, au fond.
Il continue d'imprégner notre imaginaire collectif. Jean-Yves Fillette, un grand merci pour cette passionnante introduction à l'Alexandréide, donc poème épique de Gautier de Châtillon, qui présente aussi une belle réflexion sur la condition et la vanité humaine, parmi d'autres sujets. Pour découvrir le texte en entier, donc en version bilingue, latine et française, il est disponible aux éditions Brepoltz.
C'est ça. La collection Témoins de notre histoire, dirigée par
Pascal Bourguin.
Pascal Bourguin, qui est correspondante de l'Académie des inscriptions.
Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.